Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Vous êtes en retard dans vos cadeaux, pas de panique, nous avons pour vous la solution. Il y a un cadeau qui ne demande pas beaucoup de préparation et ne sera pas une ligne en plus sur votre relevé bancaire. Un cadeau qui, au dire de nombreuses études, serait une source de régulation de nos humeurs, assurerait à long terme une meilleure santé et rendrait même les sportifs plus performants. Un cadeau qui pourrait même être la clé de fêtes de famille réussies, et ce jusqu'avec sa belle-mère. Mais quel est ce cadeau miracle, me direz-vous ? Le pardon. Je te demande pardon, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. Voilà, le jeudi étant traditionnellement dévolu au sujet de société, on fait un petit écart en cette presque veille de Noël avec ce thème et donc le titre de cette émission qui est le nom d'un de vos ouvrages, Michel Martin Prével. Vous êtes veuf, père, grand-père, prêtre, religieux de la communauté des Béatitudes, quel cumul, et auteur donc d'un petit livre, Je te demande pardon, paru aux éditions des Béatitudes. Bonjour.
Bonjour à tous.
Merci d'être là donc en cette veille de Noël. On avait fait une émission avec vous sur la communication dans le couple avant les grandes vacances. Et comme vous avez publié comme ça trois petits livres sur trois thèmes différents, donc la communication, le pardon, et le troisième est sur la tendresse, et ben on va prendre rendez-vous avec vous pour finir ce parcours de ces trois livres avant les grandes vacances. On vous réinvitera pour ce petit opuscule, je sais pas comment on dit, ce petit livret sur la tendresse. Alors aujourd'hui c'est le pardon. Je disais en souriant, donc je me suis plongé donc entre autres dans l'article d'un magazine féminin dont je ne connaissais pas le nom, qui s'appelle Châtelaine, qui rapporte qu'une université américaine a fait un certain nombre d'études et que le fruit de ces études était de montrer que les compétiteurs de saut en hauteur, ceux qui avaient reçu ou donné le pardon, sautaient plus haut. Vous avez lu un autre élément d'actualité, peut-être moins trivial, mais tout aussi important, un sondage, et vous voudriez commencer par ça.
Oui, c'est très récent, il paraît que 70% des Français vont vivre le repas de Noël dans une certaine anxiété pour éviter surtout qu'il n'y ait pas de dispute pendant ce repas-là. Ce qui veut dire qu'on a bien une conscience qu'on a à vivre les uns envers les autres avec beaucoup de bienveillance. Mais cela n'est possible que justement parce que s'il y a des différends, et il y en a forcément dans une famille et dans un couple, c'est évident qu'il y a un moyen pour sortir de ces différends, mais surtout pas oublier ou mettre artificiellement une tête, voyez, de circonstances, alors qu'en réalité, nous sommes habités peut-être par de l'amertume, par des incompréhensions, etc. Et donc, c'est ça le moyen, le cadeau dont vous parlez. Je trouve que c'est très beau, c'est un des plus beaux cadeaux qu'on peut faire à son conjoint, à ses enfants, à des gens de sa famille, que de leur demander pardon pour des choses qui ont été faites de travers et qui ont laissé des traces, tout simplement. Parce que ça, c'est de la psychologie. C'est pas d'abord une vie spirituelle riche, c'est d'abord psychologiquement, c'est une valeur positive très forte de se demander pardon.
Quelle urgence il y a à se demander pardon. Vous êtes, on va dire, connu et habitué donc à accompagner des couples, y compris des couples en difficulté. On parlera à la fin de cette émission du parcours Toby et Sarah, dont on a parfois parlé à cette antenne. Vu de loin, eu égard à votre âge et votre expérience de vie, qu'est-ce que vous diriez quant à l'urgence de se pardonner ?
Parce que, dans la famille,
dans la société.
Parce que vous voyez, c'est un véritable poids que l'on peut porter comme ça, et mystérieusement, on souffre, alors que tout simplement, le pardon est une formidable occasion à la fois de guérir et aussi de se libérer. Je pense à cet homme, vous savez, dans le film Mission, qui a voulu absolument tous ses péchés, etc. Sans... Alors il en fait un énorme paquet, il traîne ça, vous savez, dans la forêt. Et à un moment donné, quelqu'un va trancher ça, parce qu'on ne peut pas continuer à traîner.
Un enfant, en l'occurrence, en plus, dans le film.
Non, c'est un soldat qui a fait beaucoup de mille.
Oui, non, mais c'est un enfant qui tranche son lien.
C'est ça. Et donc, de fait, il faut se libérer de tous ces manques et toutes ces faiblesses que nous avons manifestées envers les autres. Et il y a un moyen extraordinaire, c'est de dépasser cela par un acte d'amour, un acte de volonté, de dire à l'autre « je te demande pardon ».
Michel Martin-Prével, le pardon est-il à la portée de tous ? C'est un peu la première question qui me vient. Est-ce qu'on est tous égaux devant le pardon ? Toujours dans le même article que je lisais ce matin, c'est pareil, un autre chercheur se désolait qu'on n'enseigne pas à pardonner, y compris parfois dans les écoles, pourquoi pas. Est-ce qu'on est tous égaux devant le pardon en fonction de nos histoires, je sais pas, de notre psychologie ? Certains ont-ils des handicaps sur ce sujet ?
Théoriquement, on est tous égaux devant ça, parce que pour moi, c'est encore une fois une valeur anthropologique qui est offerte à tout le monde. Pourtant, on a une expérience du pardon qui est plus ou moins négative, parce qu'on a pu avoir des faux pardons, on a pu croire être pardonné ou demander pardon, et ça ne s'est pas fait, il n'y a pas eu des fruits attendus. Donc on a des expériences quelquefois un peu maladroites sur le pardon. Mais de fait, il faut peut-être apprendre à pardonner. Et voilà pourquoi des personnes ont vécu cela dans leur enfance. Elles ont été éduquées au pardon. Ce sera plus facile. On dit que pardonner pour les petites choses, et souvent, ça finit finalement par être plus facile quand il faut pardonner les plus grosses. Donc il y a effectivement une histoire du pardon pour chacun qui est différente. Voilà pourquoi certains n'arrivent pas, ou c'est très très difficile pour certains, et peut-être sans doute plus facile pour d'autres.
Vous laissez entendre que le pardon est, on va dire, une réalité humaine normale. Y a-t-il forcément une dimension spirituelle dans le pardon ? Peut-on en fait réellement pardonner, même si on n'a pas la foi, même si on n'a pas un chemin spirituel ?
Bien sûr qu'on peut pardonner, parce que c'est comme inscrit en nous. Ce qui est inscrit en nous, c'est l'amour. On a tous une vocation à l'amour, à vivre de cela. Et parce que l'amour est quelquefois blessé et qui peut passer justement par ce trajet du péché, ça s'appelle comme ça en termes spirituels, il y a heureusement l'antidote, c'est le pardon, en tout cas c'est le remède. Et c'est vrai que la foi, pour ça en tout cas, aide, parce que bien sûr, Dieu est pardon, Dieu nous enseigne le pardon et lui-même a pardonné. Et c'est aussi la grâce de ce sacrement qu'on appelle la confession, qui permet justement, en retrouvant l'intimité avec Dieu par son pardon, on est amené, on est envoyé, nous aussi, à retrouver la même intimité avec nos proches en se demandant pardon. Voilà, c'est à la fois très très simple et pourtant, de fait, ça paraît souvent difficile.
À vous lire, y aurait comme un préalable aussi, c'est, même si on en est tous capables, c'est de se connaître. Y aurait pas de pardon en fait sans une bonne connaissance de soi, sans une capacité un petit peu de retour sur soi-même. On peut aussi passer son temps à demander pardon et que ça soit pas juste. Enfin, il peut y avoir des excès dans un sens comme dans l'autre.
Absolument.
En quoi la connaissance de soi est indispensable ?
Parce que quand on se connaît, on sait où sont ses propres faiblesses. Et au lieu de les cacher ou de les surmonter par de l'orgueil, par de l'aveuglement, je crois que c'est tellement vrai de bien se connaître pour retrouver justement une relation plus vraie avec les autres. Et une relation vraie avec les autres, c'est pas simplement voir, comme on dit, que la bouteille est toujours à moitié pleine.
Vide ou pleine.
Elle est aussi à moitié vide.
Les deux,
donc,
en tout cas.
De fait, il y a de fait en nous ce mélange, pour ainsi dire, du bien et du mal, qui fait que on ne subit pas le mal. Je crois qu'on le surmonte très souvent, justement, par le pardon. Et pour ça, de fait, le pardon est divin, parce que c'est vraiment le bon Dieu qui nous a montré comment ça marche, je crois. Mais pourtant, c'est jouable, je dirais, pour tout le monde.
Le pardon est-il un chemin ? Est-ce qu'aussi on peut se dire qu'on commence à, on va dire, on prend une route et qu'on va pas forcément y arriver du premier coup ? Vous laissez entendre aussi dans votre livre qu'il y a quand même une folie à l'intérieur du pardon, quoi qu'on en dise, c'est qu'il y a une dimension radicale de gratuité. Et tout le monde n'est peut-être pas prêt à cette gratuité, à solder les comptes et les rancœurs.
Ben oui, parce que c'est vrai qu'il y a quelque chose d'un peu scandaleux à donner à celui qui m'a fait une offense, de lui donner mon pardon, ça veut dire que je n'oublie pas, mais je décide d'effacer la dette, quoi. J'efface l'ardoise. Et ça, c'est un peu scandaleux, parce que l'autre, bien entendu, il a absolument pas mérité ça. Donc en termes de raison, on n'en sort pas. Vous voyez, quand on a subi des choses très graves, comme un viol, quand on a été blessé profondément, quand on a subi une erreur judiciaire, une erreur médicale, etc., on peut dire ça, c'est impardonnable. C'est une façon de fermer une porte, même pour quelque chose qui est très grave, parce que de fait, ce mal qui m'habite va rester là et je vais naturellement le ressasser. Donc ça, c'est la pire des situations. Là, c'est donc psychologique. Pourquoi garder un mal, une blessure, quand nous est ouverte cette petite porte, qui est une voie étroite sans doute, mais qui permet à la fois de reconnaître effectivement une blessure, c'est pour ça qu'il faut en parler avec la personne, mais faire cet acte fou, parce que je décide que tout ça, je le dépasse. Je décide d'abandonner le fruit de cet acte qui me fait encore mal pour remonter à la personne elle-même, l'offenseur, et lui donner mon pardon. Alors c'est grand et pourtant et c'est grand et ça marche. Pourtant, c'est vrai que ça sera toujours difficile.
Est-ce que vous auriez un exemple dans toutes les personnes que vous avez pu accompagner ou des choses que vous avez lues de pardon qui paraissent, ou d'effacer l'ardoise paraître être plus grand que soi?
Oui, j'ai vu ça. Vous voyez, ça a pris du temps, mais j'ai vu ça sur des personnes qui ont été profondément blessées dans le mariage avec des conjoints qui les ont quelquefois battus, etc. Vous voyez, au bout d'un certain nombre d'années, ont réussi à dépasser ça parce que justement, elles ont pardonné à leur bourreau, à leur offenseur. Et il y a même quelqu'un, vous savez, Maïté Gertener, qui a écrit un livre « Même les bourreaux ont une âme ». C'est cette juive qui a été martyrisée par un médecin nazi pendant la Grande Guerre et pendant la Guerre mondiale et qui a réussi, après de nombreuses années, à faire ce travail du pardon en elle pour arriver à pardonner à cet homme qu'elle a retrouvé, elle a pu lui dire « je te pardonne » et cet homme en a été bouleversé. Donc vous voyez, le pardon a des conséquences extraordinaires.
Est-ce qu'on peut pardonner tout seul aussi? Parce que là, ce qu'on entend, c'est qu'il y a derrière un dialogue, un échange, et du coup, un pardon posé sur un dialogue. Peut-on pardonner tout seul?
On peut, bien entendu, parce que c'est vrai qu'il faut d'abord reconnaître qu'en soi, le pardon, c'est quelque chose qui est, comme on dit, une grâce qui se reçoit. C'est la personne qui peut seule pardonner, on ne peut pas le faire à sa place. Pourtant, il est vrai qu'on peut être aidé pour cela. Et il y a heureusement certains psychologues qui croient à la valeur du pardon et qui peuvent effectivement faire ce travail. Bien que malheureusement, il paraît que la moitié des psychiatres ne croient pas au pardon. Eh bien, je crois que c'est encore une fois une valeur anthropologique et sans doute qu'à mieux l'enseigner, on va peut-être aussi mieux la pratiquer, tout simplement.
Mais donc on peut pardonner tout seul, c'est ce que vous laissez entendre.
Bien sûr, et c'est vrai que ça demande un certain travail, parce que c'est pour ça que Jésus, dans l'Évangile, dit qu'il faut pardonner jusqu'à 70 fois 7 fois. C'est-à-dire que c'est une dynamique, ça revient comme les vagues de l'océan, c'est par vagues que progressivement, et vague après vague, vous savez, la mer finit par atteindre des rochers, et ébranler des rochers. Ben c'est un peu ça le pardon, il faut avoir cette patience, il y a beaucoup de patience souvent à arriver à pardonner.
Avant qu'on fasse une première pause, on va s'arrêter sur trois citations bibliques qu'on a choisies, qui est dans votre petit livret. La première, c'est dans les psaumes, si je ne me trompe pas, « Un frère offensé se ferme plus qu'une forteresse ». Comment vous commenteriez cet extrait biblique?
Alors c'est un proverbe, oui.
Un
frère offensé se ferme plus qu'une forteresse parce que le pardon...
Commentaire et illustration, si possible, par exemple. Ou...
Alors c'est pourquoi? Parce que quand on a été blessé, c'est bien connu, pour se protéger de l'offenseur, on va se fermer. Et souvent, parce qu'il y a une blessure, il y a une rupture de la relation. On le voit bien sûr dans un couple, on le voit entre des amis, etc., dans une famille. On se ferme par rapport à ceux qui nous ont blessés, tout simplement parce qu'on pense ainsi que l'on va diminuer cette atteinte du mal. En réalité, il est toujours là, c'est comme une plaie qui suppure. Et bien entendu, au passage, on a rompu la relation. Et justement, le pardon peut déboucher sur une réconciliation, pas toujours, mais ça peut déboucher. Et donc pour ça... De fait, on n'est plus une forteresse quand on décide de ne pas se fermer.
Deuxième citation biblique, cette fois c'est dans l'Évangile selon Saint Luc. « Celui à qui on pardonne peu montre peu d'amour. »
Alors c'est parce qu'il y a une très forte relation entre l'amour et le pardon. Souvent on pense qu'il faut d'abord pardonner et après on se remet à aimer. Alors que l'amour commence dans le pardon lui-même. Et on voit bien que si j'aime une personne, pensons encore une fois au couple... Quand on aime une personne, malgré une offense, on a ce désir d'aller jusqu'au pardon. Et donc l'amour peut être à l'origine d'un pardon, comme le pardon va aussi augmenter l'amour, le renouveler. Donc il y a un lien très profond entre l'amour et le pardon, c'est sûr. Autrement dit, pardonner, c'est aimer, c'est la même chose.
Troisième citation biblique, et après on fait une pause. Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne pardonnera pas vos fautes. Cette fois, donc, c'est Jésus qui parle dans l'évangile selon saint Matthieu.
Alors ça, c'est pour ainsi dire une cohérence. Ce que Jésus reprochait aux pharisiens, c'est qu'ils étaient très, très forts pour demander pardon à Dieu, mais qu'ils ne le faisaient pas vis-à-vis de leurs semblables. Et donc, il y a une cohérence. Si Dieu me pardonne, c'est parce qu'il me croit moi aussi capable de pardonner aux autres. Et si je me réconcilie avec Dieu, eh bien le fruit, c'est que j'aille me réconcilier avec les autres. Et inversement, quand je me réconcilie avec les autres, je pose un acte de pardon, un acte d'amour. C'est comme ça aussi que je rends gloire à Dieu. Donc ce sont les deux commandements de l'amour, aimer Dieu, aimer les hommes, que l'on retrouve dans le pardon, où il faut demander pardon à Dieu et il faut aussi demander pardon aux hommes. C'est cohérent. Voilà.
On fait une première pause, on vous retrouve. Je te demande pardon, c'est donc le titre de ce petit livret que l'on parcourt, paru aux éditions des Béatitudes.
Radio Présence dans la Cité Mariale, 96. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Je te demande pardon, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce jour. On fait une petite exception cette presque veille de Noël pour cette émission du jeudi traditionnellement dévolue au sujet de société. Quoique, on peut considérer peut-être que le pardon est un enjeu de société. Nous sommes avec Michel Martin Prével, veuf, père, grand-père, prêtre, religieux de la communauté des Béatitudes et auteur donc d'un petit livre du même nom, Je te demande pardon, aux éditions des Béatitudes. Est-ce qu'on peut dire que c'est un sujet de société, Michel Martin Prével? Est-ce que ça a un rapport quand on on lit le journal, on peut...
Ben oui, parce que vivre en société, c'est vivre avec les autres. Or, on a avec les autres des actes qui sont des actes de bienveillance, de charité, des tas de choses très sympathiques, mais on a aussi des choses désagréables, on a des paroles qui blessent, on a des actes, des gestes qui font du mal à l'autre. Et c'est pour ça que le pardon vient bien à sa place dans une société, dans une famille, même dans une entreprise.
Ça concerne même la réforme des retraites ou...
Eh bien, pourquoi pas. En tout cas, j'imagine
les conflits
bien que,
sociaux en France.
Moi, j'imagine bien une entreprise où le responsable, le directeur, peut très bien, justement, avant les vacances de Noël, de dire à tout le monde, mais je vous demande pardon parce que j'ai peut-être eu des paroles un peu blessantes quelquefois, où je n'ai pas fait assez attention à l'un ou l'autre. Et c'est très beau qu'un responsable demande pardon aux personnes dont il est... qui sont sous sa coupe. C'est ce qui se vit, vous savez, dans un monastère. Moi, je suis responsable de mon monastère actuellement, et tous les ans, je prends un moment, ça s'appelle la coulpe, hein, et on prend un moment pour demander pardon à chacun de ce qu'on a pu faire qui aurait pu le blesser.
Vous ne demandez pas un pardon communautaire, vous adresser à chacun.
Mais c'est devant toute la communauté, t'en réunis, c'est ce qui se passe dans les monastères, et je crois que dans une famille, c'est beau quand un papa, une maman... peut aussi demander à ses enfants d'avoir été injuste à tel moment, d'avoir eu de la colère, des choses comme ça, qui ont blessé tout l'ensemble. C'est parce que nos réactions, nos comportements peuvent blesser les autres en groupe, rassemblés, que c'est bon aussi de leur demander pardon quand ils sont rassemblés. On voit, vous savez, des hommes qui sont en train de mourir sur leur lit et qui rassemblent tous les leurs et qui demandent pardon. Que c'est beau, ça. Ça transmet un esprit de famille. Je crois qu'en famille, il faut se demander pardon encore une fois.
Alors, Michel Martin-Prével, avant qu'on voit un peu les faux pardons, les langages du pardon ou la manière dont vous incitez à faire un petit examen de conscience, comme on dit dans le jargon, ou un retour sur soi, on pourrait dire, pour être moins jargonneux à l'occasion de ces fêtes, je voulais d'abord vous reposer une question. Parce que vous laissez entendre que le pardon, c'est à la fois une décision, donc un acte de volonté, et en même temps, que comme c'est parfois une folie, c'est aussi quelque chose qu'on reçoit. Alors comment on arrive à tenir un peu les deux?
C'est ce qui fait qu'on ne comprend pas toujours bien le pardon, parce que c'est à la fois irrationnel, pourtant ça mobilise en nous des valeurs très nobles. Il ne s'agit pas du tout d'envie, il ne s'agit pas de sentiment, il s'agit justement d'une capacité en nous qui s'appelle la volonté. C'est d'ailleurs la même chose que pour l'amour. L'amour, c'est un acte de volonté. Ce n'est pas qu'un sentiment. Et il en est de même pour le pardon. Il faut décider de pardonner. C'est-à-dire que ce n'est pas d'abord considérer que j'y arrive pas, que je ne peux pas. Le vrai verbe, ce n'est pas pouvoir. Le vrai verbe, c'est vouloir. C'est comme ça qu'on peut entendre des gens qui disent « ça, je ne le pardonnerai jamais ». Et ben, de fait, ils ont fermé la porte. Et ça va rester comme ça. Alors que même si on se rend bien compte qu'il va falloir de la patience, qu'il va falloir des efforts, etc., le simple fait de dire « je veux pardonner », c'est déjà un petit chemin qui commence dans notre propre cœur. Car il s'agit, avant de voir tous les effets et ne pas attendre trop vite les effets de ce pardon, se mettre soi-même en route en sachant que c'est un travail.
Donc on pose une décision. Et par retour, on espère quand même qu'un moment va nous être donné le cadeau d'arriver à pardonner.
Alors de fait, il y a
une sorte... Parce qu'on peut le vouloir et ne pas y arriver. C'est...
Voilà, exactement. C'est pas tout de le vouloir, c'est vrai. Pourtant, c'est une clé qui permet d'ouvrir une porte. Ensuite, c'est vrai qu'il y a une certaine incertitude. D'abord parce que ça se fera plus ou moins vite, on ne sait pas pour quand. Quelquefois, ça ne peut même pas se faire sur cette terre, ça se fera peut-être au ciel. Alors vous voyez, ça va jusque-là. Mais pourtant, si on ne sait pas exactement quand, on ne sait pas non plus, on ne sait pas si l'autre va avoir accès à ça, et en particulier si lui va demander pardon. Parce que moi, je veux bien pardonner, et on dit, mais il faudrait que l'autre demande pardon. Ben non, c'est quelque chose d'indépendant. Lui doit demander pardon, il doit faire un certain travail, il doit mettre un mouchoir sur son orgueil, et moi aussi je dois mettre un mouchoir sur mon orgueil parce qu'il s'agit de ne pas revendiquer des droits à partir de là, mais de vouloir effectivement aller plus loin. Donc c'est une marche, c'est une dynamique le pardon.
Alors les faux pardons maintenant, qu'est-ce que vous entendez par les faux pardons? Est-ce qu'il y a une liste, quelques grands types de faux pardons?
Ben les faux pardons, c'est surtout quand on est plutôt dans l'excuse. Alors, il y a deux façons de s'excuser. On dit « je m'excuse ». C'est un peu incroyable parce que je ne pense qu'à moi, là. C'est-à-dire, je suis gêné parce que j'ai produit chez l'autre. Alors, je suis en train d'être désolé. Alors, c'est pas parce que je le dis que j'apporte quelque chose à l'autre. C'est pas donc du pardon parce que je suis en train de m'occuper de moi-même quand je dis « je m'excuse ». Il y a aussi une excuse très curieuse, on voit ça chez des gens qui ont une grande âme quelquefois, ils excusent celui qui leur a fait mal, en disant « oh ben c'est pas grave, oh, il était fatigué ». Alors, c'est-à-dire qu'ils nient le mal qu'ils ont pu recevoir. Et ça non plus, on ne va pas pouvoir guérir parce que si on ne reconnaît pas l'offense qui m'a été faite, le pardon ne va pas faire son effet.
Pourtant, ce n'est pas des personnes qui donnent toujours l'impression d'être encore mal. Au contraire, il y a une habitude de tout excuser parfois.
Oui, mais c'est une façon de mettre trop vite un pansement sur quelque chose qui n'est pas encore vraiment guéri. Et donc l'excuse ne fait pas du tout le travail du pardon. C'est pour ça que j'appelle ça plutôt un faux pardon. Il y a aussi l'oubli, parce que trop vite, on veut tourner la page, comme on dit. Et ça, c'est un peu faux, parce qu'on garde la trace de cette offense, de cette blessure que j'ai reçue. Elle travaille en moi, elle est inconsciente. Et l'oubli, on voit bien qu'on croit avoir dépassé quelque chose en l'oubliant. C'est une fuite, en réalité, et ça va ressortir plus tard. Vous voyez, alors dans le couple, il y a des tas de choses qu'on peut décider d'oublier, mais si ce n'est pas traité... Si c'est pas absorbé par le pardon, ça va ressortir. Et là, on s'aperçoit qu'on a des comportements un mois, six mois après, qui font que je suis encore avec cette blessure qui agit en moi.
Juste sur la question de l'oubli, si on s'arrête un tout petit peu, comment est-ce qu'on fait pour tenir pardon, à vous entendre en fait, on n'oublie pas pour autant, et en même temps, on ne nourrit pas de rancœur. Comment est-ce qu'on peut vivre avec quelque chose qui laisse une trace en fait, sans qu'il y ait de la rancœur et tout en ayant pardonné. Parfois, on s'y perd.
C'est parce qu'il faut éviter ce qu'on appelle le ressentiment. Le ressentiment, c'est se mettre à ressentir. Et quelquefois, on participe à ça. C'est-à-dire qu'on se flagelle, en ressassant ce qui a été commis. L'important, c'est de détourner son regard de la blessure pour remonter à celui qui m'a blessé. Parce que là, on passe des actes aux personnes. Et c'est très différent. Il faut toujours distinguer la personne de ses actes, parce que la personne est certainement mieux, elle est plus grande que ce qu'elle a commis. Voilà, donc si j'ai été blessé par quelqu'un, remontons à cette personne pour voir aussi ce qu'elle est par ailleurs. Et ça va certainement m'aider à pardonner. Alors on pardonne un acte, on pardonne à une personne, mais c'est à propos d'un acte. Mais il ne faut pas oublier que c'est une personne, c'est dans une rencontre de nouveau que se passe justement cette guérison produite par le pardon.
Donc les faux pardons, je m'excuse, j'excuse trop vite, j'oublie.
Il y a aussi bien sûr la vengeance qui est une ces choses terribles. Ça peut sous un pardon, vous voyez, en se drapant dans son innocence, on peut faire valoir à l'autre justement en l'écrasant, en essayant pédagogiquement de lui faire comprendre tout ce qu'il a fait. Ça c'est une façon de se faire justice, autrement dit. Et ça, ça s'appelle une sorte de vengeance. C'est-à-dire qu'on cherche absolument à ce que l'autre pâtisse de ce qu'il a fait. Sur le mal qu'il a produit, je cherche de façon très, très, très pernicieuse, quelquefois, à ce que lui aussi connaisse un mal pour faire équilibre. Or, je crois qu'on ne fait jamais bien de supprimer un mal qu'en y mettant un bien à la place et non pas faire un autre mal. Que la vengeance, c'est faire un mal pour un mal. Et ça, bien sûr que l'Évangile nous dit cela. Il nous dit, on n'est plus dans œil pour œil, dent pour dent, mais on est vers, justement, aimer vos ennemis. C'est quelque chose qui est extraordinaire. Forcément, celui qui m'a fait du mal, c'est mon ennemi. Et Jésus dit qu'on peut arriver à ça, à aimer son ennemi, parce que ça, c'est géant. Et ça transforme complètement la relation.
Donc je m'excuse, on excuse tout, on oublie ou on se venge. Est-ce qu'on peut parler maintenant des langages du pardon ? Les langages du pardon, donc il y a un auteur célèbre, enfin en tout cas célèbre auprès de certains, donc le fameux Gary Chapman qui a écrit un livre qui s'appelle « Les langages de l'amour » que certains connaissent très bien, les autres, c'est intéressant à découvrir. Il y aurait des manières en fait de dire ou de recevoir, enfin de se sentir aimé. Donc c'est les fameux langages de l'amour et donc il y a une déclinaison, un livre qui s'appelle « Les langages du pardon ». Alors vous y voyez plutôt une progression dans le pardon qui peut être éclairante, 5 étapes.
Oui. Alors c'est plutôt des étapes, effectivement, parce que c'est vrai qu'il faut commencer par regretter, c'est la première, c'est ce que l'on dit quand on commence à dire « je suis désolé », ça veut dire « je me rends compte de ce que j'ai fait ». Ensuite, reconnaître ses responsabilités, et déjà de dire ça à l'autre « oui, je suis responsable de ce qui se passe ». c'est déjà, pour une part, commencer à faire un peu de paix chez l'autre. Mais ce n'est pas suffisant, et ça, ce n'est pas encore du pardon. Il y a aussi la voie de la réparation, quand elle est possible, parce qu'elle n'est pas toujours possible. La réparation peut amener aussi quelque chose qui apaise aussi, hein, celui qui a été blessé. Il y a ensuite
la réparation, c'est quoi?
La réparation, c'est que par des gestes.
Vous pouvez prendre un exemple ou...
Eh bien, je pense par exemple à un époux qui a parlé très mal à sa femme le matin en parlant. Il a même été peut-être un peu insultant. Il va garder ça toute la journée dans son cœur. Il n'est pas très bien. Et le soir, eh bien, il rentre. Et alors, bien entendu, il vient avec un magnifique bouquet de roses pour dire « Tiens, ma chérie, ce soir, je t'offre des roses. » C'est parce qu'il a le désir de réparer un acte, une parole qui a été malheureuse. Alors ça, on le fait quelquefois, mais il y en a qui le font jamais, bien sûr. Hein. Et puis, il y a aussi certaines blessures qui ne peuvent pas se réparer. Vous voyez, si j'ai donné une gifle à ma femme, par exemple, ça va rester dans sa mémoire. Hein. Je ne vais pas pouvoir réparer ça. On ne répare pas tout. Et si je tue ma belle-mère, c'est sûr que là non plus, je ne peux pas réparer. Pourtant, c'est une part. Pour une part, ça rentre effectivement comme quelque chose qui participe au pardon.
Première étape, donc je regrette. Deuxième étape, je reconnais ma responsabilité. Après, donc, j'essaye de réparer si je peux. Et puis, donc,
ensuite,
il y en a une quatrième et une cinquième.
C'est une quatrième qui s'appelle le repentir, qui est peut-être un sentiment religieux, mais qui est, je crois, aussi dans le cœur de tout homme. C'est Caïn qui s'en va en se rendant compte de parce que faire le mal, ça diminue l'homme. On n'est pas fait pour faire le mal. Et donc, quand on a fait le mal, le repentir, c'est de s'apercevoir que ça, c'est un poids que je porte désormais sur ma conscience. L'œil était dans la tombe et regardait Caïn, dit Victor Hugo. Là, ça, c'est le repentir. Et ce n'est pas suffisant parce que le repentir est comme quelque chose qui peut nous enfermer. Il faut le.
J'avais noté le désir de changer.
Il y a le désir de changer aussi, tout à fait. Et enfin, le cinquième mouvement, c'est de demander pardon. Et là, on est dans un acte de volonté, un acte qui extériorise et qui fait sortir justement de ce qui nous atteint. Quand on a fait une offense, on a besoin d'être libéré. Donc, il y a celui qui est blessé qui doit être libéré, mais il y a aussi celui qui a été blessant.
Michel
il faut
Martin.
Libérer deux personnes.
Michel Martin Prével, est-ce que il peut y avoir pardon sans à un moment utiliser cette formule, comme on dit, c'est on apprend aux enfants à dire s'il te plaît, je te demande pardon et l'autre je te pardonne. Est-ce que on peut se pardonner sans qu'il y ait cette verbalisation?
Bien sûr, parce que le mot en fait cache un affect, le mot cache en fait un mouvement profond de l'âme. Et bien sûr, ce mouvement profond de l'âme peut trouver d'autres mots. Enfin, en français, c'est quand même assez simple de se dire tout simplement « je te demande pardon ». Parce que là, on est dans quelque chose qui est bien précis pour tout le monde. Voilà.
Enfin, dans votre livre, je dis enfin, avant qu'on fasse une deuxième pause, vous donnez des petits outils, une espèce de méthodologie. Donc, vous appelez ça « examen de conscience ». Alors, ça peut faire peur à certains, ça peut paraître d'un autre âge peut-être à d'autres. On va dire que on pourrait appeler ça donc « retour sur soi », comme je disais. Bref, vous proposez de vous arrêter sur certains aspects de nos vies et de regarder justement en quoi on aurait pu être négligent ou blesser justement les autres. Alors, si on en a choisi quelques-uns, vous commencez par la prière. Pourquoi est-ce que vous commencez par la prière dans votre livre?
Ben parce que c'est notre relation.
Ça peut paraître exigeant à beaucoup,
Oui, en tout cas, vous savez qu'il paraît 90% des gens prient. Ça veut dire que selon ses croyances, selon sa religion, etc., c'est sûr qu'on a une référence à un absolu, quelque chose qui est un peu au-dessus de nous. Quelquefois, c'est très flou pour certains. Pour la plupart des croyants, il s'agit de Dieu, bien sûr. Pour nous, ça peut être le Christ, pour nous les chrétiens. En tout cas, c'est vrai que cette référence à quelque chose de supérieur, qui justement trouve une sorte d'équivalent au fond de notre cœur, ça s'appelle la conscience, et ça remet la personne devant ce qu'elle est en profondeur. C'est pour ça que d'abord faire cet examen de conscience, je crois que c'est surtout aller chercher une vérité en soi, une vérité dans la relation aux autres. Et ça commence par une vérité en face de ce que j'appellerais un absolu, Dieu, le Christ, etc.
Alors vous posez une première question, vous invitez à faire un premier examen, c'est « je ne cherche pas Dieu dans une partie de mon existence ». Qu'est-ce que ça veut dire?
Alors ça, c'est un peu en rapport avec l'égoïsme, c'est-à-dire que je fais une place à Dieu dans ma vie, et pourtant, trop souvent, je ne fais qu'une petite place ou pas assez. Et je crois que le croyant vraiment libre, c'est celui qui arrive à organiser sa vie en totalité avec ce Dieu qui est présent en lui et qui aussi instruit tout ce qu'il vit et toutes ses actions. Et donc cette sorte de totalité qui n'est pas écrasante, mais qui au contraire vient donner du sens à toute ma vie, qu'il faut retrouver. C'est pour ça qu'il faut remettre Dieu dans toute son existence, finalement.
Vous abordez un autre point, vous parlez des formes d'appétit divers et variés et parfois désordonnés. C'est un mot qui est la convoitise. Vous dites « j'ai manqué de tendresse respectueuse envers l'autre, parole, geste, regard ». Pourquoi est-ce si important ?
Eh bien, parce que la tendresse, c'est la disposition de mon être qui se tourne vers l'autre pour chercher surtout son bien. C'est pour ça que la tendresse, c'est un acte extrêmement...
Redites-nous ça, mais la tendresse, c'est...
C'est toute cette attention de mon être qui se tourne vers l'autre pour son propre bien, pour lui donner du bien. Et c'est pour ça que c'est en soi, c'est un acte d'amour, la tendresse. Alors pourquoi c'est important de garder cette tendresse respectueuse ? Parce que justement... Dans cet acte d'amour envers l'autre, je pense au couple par exemple, on sait bien que se mêle aussi la volonté de se servir soi-même, de tirer la couverture à soi, de chercher aussi un certain intérêt. Vous savez, l'amour vraiment désintéressé, c'est quand même pas courant. Et c'est pour ça que manquer de tendresse respectueuse envers l'autre, c'est redonner à mes paroles, à mes gestes, à mes regards, un amour qui évidemment me tourne vers l'autre et c'est pour le bien de l'autre. C'est un oubli de soi, c'est un anti-égoïsme remarquable.
Un dernier, la communication. J'interromps l'autre quand il parle. Alors ça va de soi, ça ne demande peut-être pas d'explication. Pourquoi est-ce que vous insistez sur le chapitre de la communication ? Ça fait un peu référence à l'émission qu'on avait fait précédemment. Parfois on peut avoir l'impression qu'aujourd'hui on en fait un peu trop sur la communication, que c'est devenu un peu la... Il faudrait tous qu'on devienne des experts en communication.
Parce que je crois qu'elle est quand même assez souvent assez malade. On a du mal à se rencontrer, on a du mal à se comprendre. Et pour se comprendre, il faut se parler. Et pourquoi il ne faut pas interrompre l'autre ? Parce que tout simplement, quand j'interromps l'autre, c'est que je ne suis absolument plus dans l'écoute de l'autre. Et je suis en train d'avoir ma petite référence personnelle. Et j'interromps l'autre et je ne m'aperçois qu'il est en train de parler, qu'il a encore des choses à me dire. Ça veut dire que c'est une fin de non-recevoir, c'est se mettre à la place de l'autre, c'est imposer sa propre conversation, ses propres idées, sans écouter les siennes. Donc interrompre l'autre, c'est une sorte de minimum, vous voyez ? On voit ça dans les émissions de télévision, sur un plateau, ils se mettent à parler tous ensemble. Et ça, évidemment, absolument personne n'écoute l'autre. Donc c'est une communication zéro.
En tout cas, y a de quoi faire. Si on prend le temps de lire tous les items que vous proposez pour essayer de, on va dire, faire un peu le ménage, eh bien, on trouve ce qu'il faut. Je rappelle le titre de ce livre. On va faire une deuxième pause et puis on va vous retrouver. Vous allez nous parler, on va dire, plus concrètement d'habitude qu'on peut prendre en couple, en famille, voire même en famille élargie pour se demander pardon. Parce qu'une fois tout cela dit, on peut se demander un peu comment on va mettre ça en pratique. Et puis vous nous parlerez de ce parcours Toby et Sarah que vous donnez pour les couples qui traversent des grandes difficultés. Je rappelle le titre de ce livret, « Je te demande pardon », paru aux éditions des Béatitudes.
Oh. Présence à Luchon, 94 FM.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Je te demande pardon, c'est pour rappel le thème de l'émission de ce jour avec Michel Martin Prével, entre autres veuf, prêtre et religieux de la communauté des Béatitudes et auteur donc d'un livret du même nom paru aux éditions des Béatitudes. Avant qu'on soit un peu concret, Michel Martin Prével, vous vouliez avoir un mot peut-être plus précis pour ceux qui aujourd'hui parmi nos auditeurs connaîtraient des difficultés profondes et vous entendez par là, si je vous ai bien compris, des situations où soit parce que soi-même on fait un chemin mais l'autre non, il faut savoir passer au-delà de la difficulté de l'autre à changer, ou quand l'autre est vraiment trop toxique, comme on dit, lui demander de prendre de la distance.
Oui,
ou en prendre soi-même.
C'est ça, il y a une sorte d'impossible quelquefois qui peut rester impossible. Parce que le travail du pardon, c'est d'abord un travail personnel pour que j'arrive, moi, à pardonner à celui qui m'a blessé. Après, que l'autre, lui, change, ça dépend pas de moi. Et quelquefois, il ne le voudra pas et surtout, il ne le fera pas. Mais en tout cas, c'est la différence entre pardonner et se réconcilier. Et il y a des situations où, en tout cas, il faut toujours essayer de pardonner à l'autre parce que j'en retire de la paix et je fais un chemin pour moi-même qui va me rendre libre par rapport à l'autre. C'est important, ça. Après, c'est vrai qu'on peut aussi désirer la réconciliation, mais ça, ce n'est pas forcément à notre portée. Et sans doute que ce sont mon comportement vis-à-vis de l'autre qui peuvent travailler à cette réconciliation. Mais souvent, je prends l'exemple de quelqu'un qui a une passion qui est un peu désordonnée. Eh bien, je vis avec lui. Ça me fait souffrir. C'est quelque chose qui mange sur ma relation conjugale, par exemple. Mais peut-être qu'il faudra essayer plutôt de s'adapter à ça, si c'est une passion qui est trop forte pour l'autre. Ou au contraire, peut-être s'en séparer. En tout cas, la réconciliation...
Se séparer de cette
peut-être
passion,
même de cette personne, si elle est dans une passion qui rend manifestement la vie conjugale impossible. Alors, de fait, il peut y avoir des situations extrêmes de ce type, mais de toutes les façons, on ne se réconcilie que quand chacun a fait son travail. Celui qui a blessé doit demander pardon, et celui qui a été blessé, il pardonne. Et quand les deux ont pu faire ce travail, et c'est indépendant l'un de l'autre, quand les deux ont pu faire ce travail, alors ils se retrouvent pour se réconcilier. Et là, tant mieux. Mais il y a des réconciliations qui ne se feront jamais sur la Terre, c'est bien évident.
Cette réconciliation, vous proposez une petite méthodologie, c'est des choses qu'on peut entendre parfois à cette antenne. Qu'est-ce que vous proposez comme méthodologie? Allez, conjugale pour la vie de couple, et puis est-ce que vous auriez la même méthodologie pour la vie de famille, voire même la famille élargie?
Alors pour la vie de couple, c'est vrai qu'on voit bien des couples aujourd'hui qui ont chargé la barque. Ils ont gardé des amertumes, ils ont gardé des quantités de choses, ils se sont blessés à de nombreux moments de leur existence. Et je crois que dans tous les couples, on trouve ça, s'il n'y a pas cette saine habitude de se demander pardon régulièrement. Alors c'est ce qui se passe avec le parcours Toby et Sarah, où on prend 5 jours, c'est quand même énorme, mais ça fait un travail extraordinaire, on prend 5 jours pour faire la révision. Et on va, c'est comme sa voiture qu'on met au garage, on change les pneus, on revoit les essuie-glaces, etc. Il y a tant de choses à réparer dans nos relations, dans les failles que nous avons subies, que ça vaut la peine de prendre du temps pour ça. Je crois qu'on peut le faire aussi dans un couple à peu près sain, si tous les soirs on peut se dire ben, « je te demande pardon pour telle chose ». Ça fait un travail extraordinaire. On passe l'aspirateur dans sa maison et on sait bien que sous le tapis il y a encore des choses, il y a de la poussière. Et bien c'est ce travail-là qui fait que la maison est de plus en plus propre. Dans une famille, on voit bien aussi.
Juste alors
que...
pour le couple, tous les jours ou alors 5 jours de retraite?
Par exemple, oui, c'est ça.
Il y a aussi la proposition mensuelle, non? Vous disiez, c'est peut-être important.
Et puis moi, je trouve que c'est le but de ce petit livre, c'est tous les mois de faire cet examen de conscience ensemble, prendre un petit moment, une soirée pour ça, de se demander pardon, parce que sur un mois, on peut se rappeler un peu toutes les petites crasses qu'on a vécues, etc. Et ça fait, ça, voilà, c'est monsieur propre qui rentre dans la maison, voilà, et ça fait du bien partout.
Alors, si on fait ça pour la famille élargie, là, c'est plus délicat, non?
C'est plus délicat.
On va pas avant Noël dire, bon, je vous préviens,
oui,
avant de couper la dinde, on va se faire...
Voilà. Parce que là, c'est les beaux-frères et les belles-sœurs avec qui on s'est pas très bien entendu, on s'est dit des choses désagréables aux dernières vacances, etc.
Puis l'intimité n'est pas forcément
évidente. Parce qu'on
n'a
pas autant
aussi
d'intimité, parce que c'est effectivement, il faut se respecter d'autant plus. On ne partage pas souvent aussi les mêmes façons de vivre. Et pourtant, il y a une façon, et c'est justement l'occasion à Noël, d'en profiter pour dire « je te demande pardon parce que je n'ai pas fait attention à ça » ou « je te demande pardon parce que ma pensée n'était pas celle-là quand je t'ai dit telle chose ». Voilà. C'est une façon d'ouvrir une porte, vous voyez. Alors l'autre, il en fait ce qu'il veut parce que c'est toujours ça, l'impossible ne nous appartient pas. L'autre, effectivement, peut répondre à ça, mais le climat de Noël, voilà, le climat de Noël, je dirais, c'est un moment un peu exceptionnel dans l'année où on a envie de ça. Souvent, hein. Peut-être parce que c'est une vieille éducation chrétienne. Vous savez que la trêve de Dieu, c'était quelque chose d'extraordinaire dans l'histoire. La trêve de Dieu, c'était toute une société qui mettait entre parenthèses, pendant un certain temps, toute marque d'hostilité. On arrêtait toutes les guerres, il fallait se réconcilier avec ses débiteurs, on se réconciliait en famille, etc. Ça, c'est une dynamique, vous voyez, qui fait que au moment de Noël, pourquoi pas justement, parce que ce sont des retrouvailles. Il n'y a de belles retrouvailles que parce qu'on a retrouvé de la confiance. Et la confiance en l'autre, elle se rétablit parce qu'on pardonne ce qu'il a pu nous faire de désagréable.
Dernier point, Michel Martin-Prével, c'est donc la réconciliation, donc le sacrement de réconciliation. Vous en parlez dans votre livre. Comment vous pourriez expliquer ce sacrement, cette proposition donc, de l'Église catholique, à ceux qui, parmi les auditeurs, ne sont pas des chrétiens convaincus? Ça peut être un pas difficile quand soi-même on doute de l'existence de Dieu, que d'aller demander pardon à un Dieu dont on n'est pas sûr de l'existence, et en plus via une tierce personne qu'on connaît ni d'Ève ni d'Adam. Qu'est-ce que vous dites parfois aux fidèles que vous croisez, oui, aux gens qui viennent pour les préparations au mariage, oui, et dont la foi est branlante?
Oui, la difficulté réside plus dans de la façon dont ça se passe dans l'Église catholique, parce que de fait, on va retrouver un prêtre, ça se passe dans un lieu qui n'est pas toujours qu'on n'apprécie pas, etc. Donc c'est plus dans la façon de le faire souvent qu'il y a une difficulté. Mais dans le fond, je pense que beaucoup de personnes comprennent que en face de celui qui est cet absolu, qui représente ce Dieu dans ma vie, qui est aussi comme qui a à voir avec ma conscience profonde, il y a cette réconciliation avec moi-même et avec celui qui est ma source, qui est une sorte de capital extraordinaire pour refaire justement toute son espérance. Donc c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est toute la force de la contrition, du repentir. Ça, c'est quelque chose qui est inscrit dans le cœur de tout homme.
Mais si je peux me permettre, au risque d'être un peu provocateur, à quoi ça sert ? Dieu a-t-il besoin qu'on lui demande pardon ?
Dieu, alors, c'est pas Dieu, du tout pour lui.
Dieu
justement.
Est Dieu.
C'est... Ben oui, mais lui, il a besoin de rien. Dieu, par définition, n'est en manque de rien. Par contre, c'est pour nous. Si nous avons à demander pardon à Dieu, c'est parce que pour nous, c'est une vraie libération. Et c'est de cela dont Dieu veut nous libérer. De ce poids, de ce poids de nos fautes, de nos failles, que l'on est les premiers juges, on est des juges incroyables pour nous-mêmes. On se juge nous-mêmes beaucoup trop vite, alors que Dieu ne nous juge pas. Il nous demande que nous puissions lui remettre ce poids de nos fautes. Et là, c'est vrai que c'est un pardon qui nous envahit et qui est source de paix. Donc, c'est pour le bien de l'homme. Alors, de fait, on pourrait croire qu'on peut faire ça directement avec Dieu. C'est ce qu'un petit peu la pensée protestante, où on reçoit finalement le pardon directement de Dieu. Pourtant, ce Dieu s'est incarné. Il a voulu que ce pardon passe par le Christ lui-même, qui est celui qui est l'auteur de la miséricorde divine, celui qui la répand et qui l'a pris lui-même sur sa propre vie. Le magnifique, l'archétype du pardon, c'est le Christ qui, sur la croix, en souffrant pour nous, peut dire au Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc nous recevons cette grâce du pardon de Dieu, mais par le Christ. Et ensuite, pourquoi le prêtre ? Parce que le prêtre est une sorte d'autre Christ. Comme c'est à la place du Christ qui nous donne le corps de Jésus à la messe, c'est aussi dans ce sacrement de la réconciliation qui nous donne le pardon de Dieu. Le prêtre est un autre Christ pour nous donner le pardon de Dieu. C'est ça l'incarnation, le fait qu'on a besoin de concret et d'avoir à dire à quelqu'un qui, par ailleurs, vous le savez, ne doit absolument pas répéter ce qu'il entend, c'est le fameux secret de confession qui est absolu, eh bien, le fait d'avoir à dire concrètement, c'est cela qui provoque justement cette libération du cœur.
Michel Martin Prével, il nous reste 2 minutes. Est-ce que vous pouvez nous parler d'une histoire de chaussettes pour finir sur une note très concrète ?
Moi, comme tout le monde le sait, j'ai été marié pendant 32 ans. Et
tout le monde
ne
le sait pas. Vous avez été marié,
j'ai
été dit au début de l'émission.
Maintenant, je suis veuf et c'est pour ça que je suis prêtre
père
aussi.
Père et grand-père.
Et père et grand-père. Et je me souviens que ça a duré presque 10 ans. Que j'avais cette sale habitude de laisser mes chaussettes sales au pied de notre lit dans la chambre conjugale. Et ça a fait souffrir mon épouse pendant très très longtemps. Elle me faisait remarquer et moi je voyais vraiment pas l'intérêt de se faire autrement. Et parce que ça restait là toute la nuit, ça lui était très désagréable. Et c'est au bout de presque 10 ans que j'ai réalisé que c'était pour elle une véritable blessure que ça... Et j'ai enfin demandé pardon pour ça, mais aussi je me suis converti, car à partir de ce moment-là, j'ai tout simplement pris la précaution de mettre mes chaussettes là où ça devait être, dans la pièce d'à côté. Voilà, donc le pardon, vous voyez, il faut quelquefois du temps, mais pourtant c'est une vraie libération. Et pardon à mon épouse, encore une fois, parce que je l'ai vraiment blessée pendant 10 ans avec une histoire de chaussettes sales, voilà.
Voilà, mais l'amour se dit aussi dans les petites choses, c'est en tout cas ce qu'on
tout
entend dans ce qui faisait souffrir votre épouse. Merci beaucoup Michel Martin Prével. Je rappelle le titre du livret qui nous a servi donc de guide. Je te demande pardon, paru aux éditions des Béatitudes. Un grand merci à vous et donc rendez-vous est pris. Avant les grandes vacances, on vous fera venir si vous acceptez donc pour parler de cet autre livret sur la tendresse. Un grand merci à vous. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h. Vous la retrouvez en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00. 05 62 48 63 00. Ou par mail à contact@radioprésence.com.